Donc ce soir, puisque c'est la dernière étude, il m'a semblé approprié de parler de la clôture du canon. Je crois que c'est un sujet qui se prête bien pour une dernière rencontre. Donc ce sera l'objet de la première partie. Et puis en deuxième partie, j'ai quelques questions qui m'ont été posées auxquelles j'essaierai d'apporter une réponse qui touche entre autres la question du libéralisme et puis les apocryphes. Alors j'ai pas eu tellement de ces questions, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'était parce que tout était tellement simple que vous avez tout compris, que vous saviez tout avant de venir ici et puis que vous n'avez rien appris, que vous n'avez pas l'habitude de poser des questions, que vous avez attendu que votre voisin les pose, ou peut-être ce qui m'est arrivé une fois à Emmaüs, après avoir exposé un thème assez compliqué, il y a une étudiante qui m'a dit « Écoutez, j'ai une question sur la seule chose que j'ai comprise. » Alors, je ne sais pas très bien laquelle de ces hypothèses je dois retenir. Bien. Concernant la clôture du canon, on en a déjà parlé un petit peu hier, même avant-hier, peut-être plus par rapport à l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament. Donc, je rappelle simplement que par rapport à l'Ancien Testament, on constate que les Juifs ont compris d'une manière ou d'une autre qu'après Malachie, il n'y avait plus de prophètes. Et c'est bien ce que Flavius Joseph, l'historien juif, un des meilleurs historiens qui ait jamais existé, extrêmement compétent, ait affirmé au 1er siècle après Jésus-Christ, donc, que les Juifs avaient 22 livres inspirés, qui venaient de Dieu, et qu'il n'y avait plus de prophètes à partir de Malachie. Et on a vu aussi que le fait d'avoir voulu ramener le nombre des livres à 22 était une manière d'exprimer ce fait que tout avait été dit. Maintenant, quand on dit que tout avait été dit pour les Juifs, il faut préciser quand même qu'ils attendaient encore quelque chose. Tout avait été dit, mais maintenant, ils attendaient le Messie. Donc, que Dieu avait parlé abondamment dans le passé, au travers de Moïse, au travers de Josué, au travers de Samuel, de David, de Salomon et d'autres, qu'il avait progressivement dévoilé son plan de plus en plus, mais que quand Malachie avait terminé ou apporté sa prophétie, eh bien, Dieu avait tout dit en ce qui concerne la venue du Messie, et que maintenant, il ne fallait plus qu'attendre que ce Messie vienne. Et effectivement, à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs étaient dans l'attente. Ils discutaient entre eux, ils disaient, mais ça doit être pour quand? C'est pour bientôt? Dans combien d'années? Un petit peu les mêmes questions qu'on pose aujourd'hui concernant le retour de Christ. Il y a une attente. Alors, peut-être qu'un siècle avant le retour, avant la première venue de Christ, les Juifs se posaient déjà cette question. Les chrétiens, depuis un certain temps, se posent cette question. Quand est-ce qu'il va revenir, notre Messie? Donc, l'Ancien Testament est clos parce que les Juifs disent « Dieu nous a tout dit ce que nous devions savoir avant la venue du Messie. » Et c'est à peu près la même situation qui se passe pour le Nouveau Testament. À savoir que, cette fois, Christ est venu sur terre. Lui, il n'a rien écrit. Il a beaucoup parlé, mais il n'a rien écrit ou rien laissé par écrit. On sait qu'une fois, il a écrit par terre dans le sable, mais il n'a pas laissé d'écrit. Par contre, il a laissé cette responsabilité aux apôtres qu'il avait choisis, en leur disant, le Saint-Esprit viendra, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, et vous éclairera au-delà de toutes ces choses. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre une grande partie du message des Épîtres, où les apôtres, Paul en particulier, mais aussi les autres, développe toutes les implications de la venue du Christ sur terre. Et quand les apôtres sont partis, dans le sens qu'ils sont morts, quand le dernier d'entre eux, Jean, est mort, à un âge avancé, alors que la plupart des autres, la tradition nous dit que tous les apôtres sont morts en martyr, à l'exception de l'apôtre Jean, qui était lui-même d'ailleurs prisonnier pendant un certain temps sur l'île de Patmos, mais que Jean, le seul, en fait, est mort de vieillesse, à un âge avancé, vers la fin du 1er siècle de notre ère. Et donc, quand Jean est décédé, les chrétiens ont dit, bien voilà, tout a été dit, le canon est clos. Pourquoi est-ce que le canon est clos? Parce que la pleine révélation de Dieu nous a été donnée en Christ. On ne peut pas maintenant encore attendre un nouveau prophète. Qu'est-ce qu'il nous dirait de plus? Puisque Dieu en personne est déjà venu. Et qu'il a vécu sur terre, que ceux qui l'ont vu vivre et qui l'ont entendu prêcher sont morts. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de plus pour notre vie? Rien de fondamental. Toutes les choses essentielles ont été dites. Et donc, il était tout à fait logique de clore le canon à ce moment. Remarquez que dans l'ordre des livres de la Bible, tels qu'ils ont été arrangés dans le Nouveau Testament, on constate que le dernier livre, c'est le livre de l'Apocalypse. Et je trouve que c'est assez approprié qu'on ait placé ce livre tout à la fin. Peut-être pour trois raisons. D'abord, l'Apocalypse, bien sûr, nous parle des choses de la fin. Alors, c'est bien qu'on termine avec ce livre, puisque les évangiles et les actes nous présentaient l'histoire de la venue du Christ et de l'Église primitive. Et puis, tout à la fin du canon du Nouveau Testament, on a l'Apocalypse qui nous présente l'histoire à venir, celle qui va précéder le retour de Christ. Donc ça, c'est une bonne raison de mettre l'Apocalypse tout à la fin. Deuxièmement, l'Apocalypse a été écrit par Jean. Or, Jean, c'est le dernier apôtre qui a vécu. Alors, c'était approprié aussi de terminer, en quelque sorte, de clore le canon avec le dernier apôtre. Et puis, une troisième raison, peut-être pour mettre ce livre à la fin, c'est pour les tout derniers versets du livre de l'Apocalypse, qui disent, au chapitre 22, versets 18 et 19, Jean parle et dit, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors, Jean dit, en une autre manière, qu'on ne peut pas ajouter ou enlever, en tout cas on ne peut pas enlever à ce livre, tout ce qui était dit est juste, mais on ne peut pas ajouter quelque chose. Alors c'est clair que ces versets 18 et 19 se réfèrent d'abord au livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas une parole que Jean aurait dite à propos de l'ensemble de la Bible. Mais c'est d'abord par rapport au livre de l'Apocalypse. Mais le fait que ce livre soit placé tout à la fin est presque un petit peu prophétique aussi, dans le sens qu'il nous dit, c'est vrai qu'on ne peut pas rajouter quelque chose à ce canon. Dieu a pleinement parlé aux hommes, au travers du Christ, au travers des apôtres qui ont transmis son enseignement, et donc maintenant, nous n'avons plus rien à rajouter. Alors, je crois que cette position est utile de plusieurs manières. Tout d'abord, quand des musulmans viennent vers moi et me disent, c'est pas, vous avez eu plusieurs prophètes, en fait, il y en a eu 10, Jésus, c'était le 9e, ou je crois, oui. Et puis le 10e, c'est Mohammed. Alors, bien sûr que Mohammed, il est plus important que Jésus, puisque c'est Mohammed qui est le dernier. Et puis, en fait, on pourrait se dire, c'est vrai, vous dites que Jésus est le dernier prophète, nous, on dit que c'est Mohammed, Mohammed est venu après. En fait, dans leur logique, ils ont raison. Simplement, je dis qu'il y a une différence. C'est que Jésus n'était pas seulement prophète. Il était Dieu en personne venu sur terre. Et qu'une fois que Dieu avait pleinement, s'était pleinement dévoilé dans son Fils, il n'y avait plus de raison d'envoyer un nouveau prophète. Qu'est-ce qu'il nous dirait de plus? Et vous pouvez tenir le même raisonnement par rapport à toutes les sectes. C'est pas qu'ils viennent avec de nouveaux prophètes, et encore des prophètes, et encore des prophètes, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter à la fin? Tout est contenu dans cette parole. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, c'est clair que tous les mystères ne sont pas dévoilés. Mais tout ce dont nous avons besoin pour vivre est consigné dans ces textes. Le livre de l'Apocalypse aussi est intéressant dans le sens qu'il termine toute la Bible. Ce n'est pas qu'il termine le Nouveau Testament, mais il termine toute la Bible avec la Genèse. On avait les origines, Et puis l'Apocalypse, les derniers chapitres de l'Apocalypse, on termine avec la nouvelle création. Les nouveaux cieux, de nouvelles terres seront créés. Et ça donne une harmonie formidable pour toute la Bible. Je vous ai parlé du chiasme hier, ben là vous avez un chiasme sur toute la Bible. Enfin en tout cas avec les extrêmes, disons. Hein, on commence avec la création du monde et on termine avec la nouvelle création. Donc je crois que l'ordre des livres ici dans le Nouveau Testament est intéressant d'avoir l'Apocalypse tout à la fin. Bon, alors on dit, le canon est clos. Mais il y a quand même deux questions qui se posent quand même. La première, c'est, et puis si jamais on découvrait encore un livre de Paul, ou un livre de Jean, ou un livre de Moïse, ou un livre de Samuel, et ainsi de suite. Si on trouvait dans au travers de recherches archéologiques, on trouverait encore un manuscrit qui serait inspiré par Paul, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce texte? Est-ce qu'on ne devrait pas l'insérer aussi dans notre canon? Une deuxième question se pose, c'est par rapport au ministère de prophétie aujourd'hui. Est-ce que ce ministère peut exister ou pas, puisque le canon est clos? La logique, c'est pas de dire, puisque il n'y a plus de paroles normatives, eh bien, le ministère de prophétie ne peut plus exister. Donc, c'est deux questions qu'on va prendre maintenant dans cet ordre. Concernant, tout d'abord, l'éventualité de la découverte d'un livre qui aurait été écrit par un apôtre ou par un prophète des temps passés. Quelle devrait être notre attitude? Eh bien, notre attitude devrait être de dire non, nous ne pouvons pas inclure ce livre dans le canon. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'aurions pas la certitude que ce livre vient bel et bien de Paul, de Pierre, de Jean ou d'un prophète. On n'aurait pas la garantie. On ne connaît pas la signature de Paul ou de Pierre ou de ces personnes. On ne connaît pas la manière dont ils écrivaient. On pourrait se dire, le contenu de ce texte est excellent, est conforme à tout ce que la Bible dit, mais on ne pourrait pas le prendre comme normatif. On le trouverait intéressant, mais il ne serait pas normatif. Parce qu'il n'y aurait pas eu un témoignage direct de gens qui disent, nous savons de qui nous avons reçu ce texte. Ce qui était vrai pour tous les autres livres de la Bible. Et en fait, on sait que les livres apocryphes ont été écrits souvent au nom de ces apôtres. C'est pas, les gens savaient bien que leur écrit qui date du 3e, 4e, 5e siècle ne serait pas accueilli, alors qu'ils ont dit, on va simplement dire, c'est moi, Paul, qui l'écrit, pour qu'il puisse être accueilli. Or, l'Église a dit non, nous n'avons pas la garantie que c'est vraiment Paul qui a écrit ce texte, vraiment Pierre ou vraiment Jean, donc nous ne l'acceptons pas. Puis en plus, il y avait bien sûr toutes sortes, dans le contenu, toutes sortes d'affirmations qui soit contredisaient directement l'Écriture, soit allaient dans une direction que l'Écriture n'avait jamais abordée, on pourrait dire. Donc concernant l'intégration d'un livre d'un prophète mort du passé ou d'un apôtre mort, eh bien on doit dire qu'on ne peut pas l'intégrer dans le canon. Concernant le ministère de prophétie aujourd'hui, est-ce que ce ministère existe aujourd'hui? Alors, je ne vais pas faire un sondage, parce que ce n'est pas comme ça qu'on détermine les doctrines, c'est pas savoir s'il y a 90% ou 51% qui sont pour ou qui sont contre, mais c'est de voir ce que l'Écriture dit à ce sujet. Et même s'il y avait 1000 personnes dans une assemblée et que 990 diraient une chose et qu'une autre dirait, serait tout à fait seul, mais serait en rapport avec l'Écriture, eh bien ces personnes auraient raison. N'est-ce pas? Pour le chemin de la vérité, on ne va pas faire un choix démocratique. C'est Jésus-Christ qui est le chemin de la vérité et la vie. Ce n'est pas l'opinion de la majorité des gens dans notre pays, et encore moins dans le monde, et pourtant c'est la vérité. Parce que ce que la Bible dit à propos du ministère de prophétie, alors certains pensent que le ministère de prophétie ne peut pas exister aujourd'hui. Parce qu'ils disent ceci, si ce ministère existait, si quelqu'un parle de la part du Seigneur avec une autorité de prophète, eh bien cette personne, si elle écrit quelque chose, ses écrits devraient être insérés dans le canon de l'écriture. Et ils ont tout à fait raison. Et toutes les églises, quelle que soit leur appartenance, protestants, catholiques, pentecôtistes, orthodoxes, n'importe quoi, tous disent non, le canon est clos. Et donc ceux qui disent, mais il y a quand même un ministère de prophétie aujourd'hui, alors disent, oui, mais ce ministère n'est pas tout à fait semblable, n'est pas de la même valeur, ou oui, de la même dimension que le ministère des apôtres ou les prophètes du passé. Alors de quelle nature est-il? Est-ce qu'il y a deux types de ministères prophétiques? Un qui serait première classe, puis un de seconde classe? Le première classe, eh bien, ils ont droit à être insérés dans le canon, puis ce deuxième classe, ils ont simplement le droit à s'exprimer oralement, mais on ne va pas les mettre dans le canon des Écritures. Est-ce qu'il y a deux types de prophéties? Personnellement, je pense que la Bible nous autorise à prendre cette voie. Il semble qu'il y a certaines indications, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui nous laissent penser qu'il y avait deux types de prophéties, deux types de ministères prophétiques. Un de première classe et un de deuxième classe. Prenons d'abord l'Ancien Testament. Vous avez des hommes très connus, comme par exemple Élie et Élisée, qui, bien qu'eux-mêmes n'aient jamais écrit un texte, étaient reconnus comme des leaders de prophètes. Ils étaient des professeurs, on pourrait dire, d'école de prophètes. Du temps de Élie et Élisée, il y avait toutes sortes de fils des prophètes. Vous vous souvenez d'ailleurs, lorsque Élie est monté au ciel, Élisée était présent, et lorsqu'il rejoint les autres fils de prophètes, il leur dit, Élie a été enlevé dans le ciel, il est monté au ciel. Et puis, les fils des prophètes ont dit, mais non, l'Esprit l'a peut-être déposé ailleurs, sous une colline. Et il a dit non. Alors, ils ont cherché, puis ils n'ont pas trouvé. Puis ils ont dit, il fallait m'écouter. Donc il y avait toute une foule, semble-t-il quand même assez nombreuse, une équipe assez nombreuse de fils des prophètes, mais qui n'avaient pas le même poids que les prophètes chefs, comme Élie et Élisée. Donc il semble qu'il y avait deux types de ministères de prophètes. Peut-être qu'on pourrait expliquer ainsi le fait que certains livres qui sont attribués aux prophètes dans la Bible n'ont pas été intégrés dans le canon. Vous vous souvenez que c'était le deuxième ou troisième soir, vous avez lu toute une série de livres, dans le livre des rois en particulier. Le livre des rois mentionne, c'est pas la prophétie de Zédo, de certains prophètes, et on s'est dit, mais ces livres, on ne les a pas dans la Bible. Pourquoi? Et la réponse que j'avais donnée, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais peut-être une des explications, c'est que cet homme avait un ministère qui était différent du ministère principal qu'avaient certains prophètes. Peut-être, je ne sais pas. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il semble aussi qu'il y avait deux types de prophéties. Que le premier était limité aux apôtres et que le deuxième semblait être répandu assez largement. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, et c'était la question que l'un d'entre vous a posée, au verset 1, Paul dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc Paul semble encourager les chrétiens de Corinthe à rechercher ce don. Alors, il y a différentes manières de comprendre ce verset, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une recherche individuelle? Moi, j'aimerais avoir ce don de prophétie. Ou bien, est-ce que ça veut dire c'est une recherche collective? C'est-à-dire que dans la communauté, on devrait mettre en valeur celui qui a ce don-là. Là, on peut comprendre différemment. Je serais presque plus enclin à l'interpréter de la deuxième manière. Mais de toute manière, Paul semble dire qu'il y avait pas mal de prophètes dans cette église de Corinthe. En tout cas, qu'il y en avait. Et ils ne savent pas qu'il y avait des apôtres en dehors de lui qui étaient dans cette église. Et donc, il faut conclure qu'en tout cas, à l'époque du Nouveau Testament, il y avait un ministère prophétique qui était différent de celui des apôtres. Puisque lorsqu'on a clos le canon, on n'a pas intégré dans le canon du Nouveau Testament un écrit d'une de ces personnes qui n'était pas un apôtre. Dans le livre des Actes des apôtres, au chapitre 21, versets 9 à 14, je me rends compte que je parle un petit peu sur un terrain brûlant ici. Actes 21, 9 à 14, il est dit, à partir du verset 8, « Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. » Alors, ces filles qui prophétisaient, ce n'étaient pas des apôtres. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom de Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté, et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. » Enfin, c'est un texte très intéressant, parce qu'on voit un homme qui ne faisait pas partie de la petite équipe, on lui donne son nom, Agabus, qui a une parole prophétique. Et cette parole prophétique va s'accomplir. Ce n'est pas un faux prophète, elle s'accomplit réellement. Donc il semble qu'il y a certains prophètes d'un type différent. Maintenant on pourrait se dire, ouais, mais alors quel est leur ministère à ces gens-là? Et autre question, peut-être qui nous intéresse tout autant, c'est est-ce que ce type de ministère peut encore exister aujourd'hui? Alors, il me semble difficile, sur la base des textes écrits qui nous sont parvenus, d'affirmer à 100% que c'est impossible que ce type de ministère puisse exister aujourd'hui. Enfin, Dieu l'a donné dans l'Ancien Testament, l'a donné à l'époque du Nouveau Testament, et il peut le donner aujourd'hui. Il me semble difficile de dire que c'est impossible qu'il le donne aujourd'hui. Certains disent, oui, mais les miracles sont moins nécessaires ou ne sont plus nécessaires aujourd'hui. C'est pas, pour la première communauté, il était fondamental qu'il y ait des miracles pour attester que les apôtres étaient les envoyés du Seigneur. Mais maintenant, on n'en a plus besoin puisqu'on a la Bible. Alors, je dirais, d'une certaine manière, je suis d'accord. Je suis d'accord que les miracles sont moins nécessaires aujourd'hui. Mais de là à conclure qu'ils ne peuvent plus exister, ou qu'un ministère de guérison ne peut plus exister, il me semble que ça, je ne peux pas l'affirmer. Cela dépend de Dieu, qui ne s'est pas engagé dans un sens ou dans l'autre. Il est le même, il est aujourd'hui éternellement. C'est vrai qu'à certaines périodes, il agit de manière plus miraculeuse qu'à d'autres, pas nécessairement en fonction de la foi des individus. Bah, Dieu agit avec beaucoup de force du temps de Moïse, beaucoup de force du temps du Christ. Pas nécessairement parce qu'il y avait plus de foi à cette période, mais parce que dans son plan, dans son dessein, Dieu voulait faire quelque chose et voulait attester que Moïse était vraiment le porte-parole, ainsi que le Christ. Et il y a des périodes où il y avait beaucoup de miracles, du temps voisin d'Élie et d'Élisée, mais c'était des temps d'apostasie. Et pourtant Dieu a fait de grandes choses à cette période. Il y a des périodes de fidélité où peu de choses se sont passées sur le plan des miracles. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire il y a moins de miracles aujourd'hui parce qu'on est moins fidèle, ou si on est plus fidèle, il y aura plus de miracles. On ne peut pas toujours faire cette équation. Cela dépend du bon vouloir du Saint-Esprit ou du Christ qui, par le Saint-Esprit, donne les dons comme il le désire. Et donc on peut dire, bon, peut-être que c'est moins nécessaire aujourd'hui parce qu'on a la parole de Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre. Peut-être dans les terres missionnaires où les gens ne sont pas encore cultivés, les miracles sont plus importants pour établir et attester que le missionnaire est l'envoyé de Dieu, peut-être. Mais qu'on penche d'un côté ou d'un autre, on ne peut pas dire catégoriquement que le miracle, le don de prophétie ou le don de faire des miracles ne peut plus s'exercer aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas le dire. On pourrait presque plutôt aller dans l'autre sens, hein, puisque dire quand même à l'époque de Corinthe, il semble que le ministère des prophètes était assez répandu. Mais en quoi consistait-il exactement? C'est quoi ce ministère prophétique qui s'exerçait à Corinthe? Moi, j'aimerais bien le savoir. Alors, on est limité en quelque sorte à ce que le texte nous dit. Et je trouve qu'il y a une parole intéressante dans 1 Corinthiens 14. On a lu le verset 1, mais le verset 2 est très intéressant. Il parle de ce don de prophétie que Paul encourage à chercher et il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, alors là on a une définition du mystère de prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et je crois que nous avons ici une définition néo-testamentaire de ce don de prophétie de deuxième catégorie, si on peut l'appeler ainsi. C'est un don d'édifier, d'exhorter et de consoler. Et je crois que ce don-là s'exprime largement dans l'Église. Qu'on ne le nomme pas toujours pour ce qu'il est. Il ne faut pas nécessairement avoir une pensée tout à fait particulière que jamais personne n'aurait eu avant nous pour dire, ça y est, j'ai eu un don, une parole de prophétie. Non. Quand vous avez une parole pour édifier, exhorter et consoler, celle qui édifie réellement, celle qui exhorte réellement et celle qui se console réellement, c'est une parole prophétique qui vient de la part de Dieu. Elle ne vient pas des nuages, mais elle vient d'une connaissance profonde et personnalisée de la parole de Dieu. Plus vous étudiez, méditez la parole, plus vous, la connaissance du Christ qui est révélé au travers des Écritures, pénètre en vous, que cela médite, travaille en vous et tout ça, plus vous serez à même de faire ce ministère d'édification, d'exhortation et de consolation. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Paul encourage l'Église des Corinthiens à rechercher ces dons-là. Et je crois que des fois, on devrait encourager quelqu'un en disant, tu sais, je crois que tu as un ministère de prophète. Pas pour qu'il s'enorgueillisse et puis qu'il se croit le meilleur de tous les hommes, mais pour l'encourager peut-être à exercer ce ministère. Parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui ont peut-être reçu le ministère d'exhortation. Mais comme ils sont timides, ils se gênent, ils sont tout petits, puis ils attendent toujours que quelqu'un d'autre parle, alors que peut-être Dieu les appelle pour exhorter ou réconforter quelqu'un. Et personnellement, mon expérience personnelle irait un petit peu dans ce sens-là. De dire, oui, j'ai réalisé qu'à un moment donné, Dieu m'avait donné une parole pour quelqu'un. Et je crois que c'était ce don de prophétie tel qu'il s'exprime ici. Et je crois qu'il est bien répandu dans cette salle. Maintenant, ce don d'exhortation, d'édification, de consolation, il peut aussi parfois être complété par une parole qui annonce l'avenir. C'est pas le prophète. Étymologiquement, ça vient du grec prophéto. Pro veut dire avant. Phéto vient de la racine grecque phémi, qui veut dire. Donc prophète, c'est celui qui dit à l'avance. Mais on sait bien que les prophètes dans l'Ancien Testament, leur tâche première était d'exhorter le peuple. Et parfois, ils annonçaient aussi les choses à venir. Mais c'était secondaire. Et je crois que c'est vrai aussi pour le Nouveau Testament, la tâche première de ce ministère prophétique, c'est d'exhorter. Mais parfois, la personne peut dire quelque chose à l'avance, comme Agabus. Il annonce, dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, eh bien, il va être arrêté. Mais une fois quand cette parole a été dite, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que ceux qui prophétisent, ils ne doivent pas tous prophétiser en même temps, qui doivent prophétiser l'un après l'autre, pas trop si possible, et puis ensuite que les autres jugent. Il y a une évaluation qui doit être faite de la parole qui a été dite. Soit pour reprendre la personne peut-être, soit peut-être encore plus pour comprendre ce qu'il veut dire et comment se comporter par rapport à ça. Tout n'est pas dit quand quelqu'un a prophétisé. Quand Agabus a prophétisé, est-ce que Paul devait aller à Jérusalem ou pas? Paul va à Jérusalem malgré, on peut dire en dépit de la prophétie. Parce qu'il avait compris dans le plan de Dieu, parce qu'il avait, je dirais, utilisé sa tête et son bon sens, parce que parfois le Saint-Esprit agit en utilisant la tête et le bon sens, peut-être plus souvent qu'on croit, et il avait dit, mais c'est absolument fondamental que j'aille à Jérusalem, au niveau de ma stratégie missionnaire. Parce que je sens qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens à Jérusalem qui sont suspects de mon ministère en tant qu'apôtre auprès des païens, et j'aimerais retourner à Jérusalem avec cette collecte que j'ai faite pour montrer et témoigner à ses frères à Jérusalem que vraiment je suis un avec eux, que je ne suis pas en train de prêcher un autre évangile, ou que je veux faire scission, ou que je méprise, pas du tout. J'ai beaucoup d'appréciation pour eux, et les chrétiens païens ont beaucoup, ou grecs, ont beaucoup de reconnaissance envers eux. Tellement qu'ils sont prêts à se sacrifier pour leur apporter une collecte et les soulager dans leurs difficultés à Jérusalem. Donc Paul réalise que ça c'est vraiment important, pour éviter qu'il y ait une scission dans l'église, que l'église de Jérusalem soit coupée des églises païennes. Il dit, ben je vais aller de l'avant. Et ces prophéties, ça m'annonce des souffrances, tant pis, je suis prêt à donner ma vie. Et je trouve que c'est intéressant comment, malgré ces prophéties, Paul, quand même, ne change pas de ligne, parce que sa ligne était bien décidée, probablement sur la base de ce qu'il avait compris, je dirais de ça, d'une bonne logique, d'un bon raisonnement, d'une bonne sagesse concernant l'œuvre du Seigneur. Alors, ayant parlé de ce ministère prophétique, ne l'ayant pas éliminé a priori, je dirais quand même qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où il faudrait lui accorder une place démesurée. Parce que je constate souvent cela aujourd'hui, n'est-ce pas, si quelqu'un vient avec une parole prophétique et dit « Moi je parle au nom du Seigneur », qu'est-ce que vous faites? Ben vous faites tout petit, vous taisez, et puis vous ne pouvez rien dire, le Seigneur a parlé. Et parfois, il y a des gens qui prennent leur désir pour le Seigneur, pour les désirs du Seigneur, la volonté du Seigneur. Et ils attendent peut-être une direction absolument nouvelle et extraordinaire de la part d'une parole du Seigneur. Et ce faisant, ils attendent ce qu'ils ne recevront jamais, ou ce qu'ils ont déjà reçu, parce que tout ce dont nous avons besoin pour vivre se trouve dans cette parole écrite. C'est tout ce qui est essentiel. Il y a des choses secondaires, mais c'est des choses secondaires. Mais pour ma vie, tout ce dont j'ai besoin se trouve dans cette parole écrite. Et je crois qu'on a trop souvent tendance à attendre quelque chose de miraculeux qui viendrait du Seigneur, plutôt que de consacrer son temps et ses efforts à approfondir, à méditer la parole que le Seigneur nous a donnée. Nous avons l'assurance que tout est inspiré là-dedans, que tout est sûr. Et qu'à force de méditation et d'approfondissement, eh bien, je commencerai peut-être à mieux discerner les valeurs du Seigneur. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Je ne sais pas quel travail, quelle profession il faut choisir, dira un jeune. Oui, mais si on est rempli de la parole écrite du Seigneur, des valeurs du Seigneur, est-ce qu'on n'arrivera pas, peut-être, à mieux sentir son chemin en écoutant la voix des anciens, des parents, des amis qui nous connaissent, qui connaissent nos dons, etc., pour nous aider à voir dans quelle direction nous devons nous engager? Et je crois que s'il y avait une parole qu'il faudrait, que l'Église aurait besoin de réentendre aujourd'hui, c'est « Écoute et médite la parole écrite que le Seigneur t'a laissée. » Une une dernière question concernant ce thème, et puis après je vais m'arrêter un petit moment pour que vous puissiez peut-être poser des questions, intervenir sur ce sujet. Puis après cela, je prendrai encore les questions qu'on m'avait posées sur le libéralisme et sur les apocryphes. Hein. Alors, une dernière question concernant la clôture du canon, c'est une petite difficulté. Quelqu'un dit, bon, le canon est clos, mais qu'en est-il, parce qu'il n'y a plus de prophètes, en quelque sorte, avant le retour de Christ, de vrais prophètes de première catégorie. Mais que faire des deux témoins qui sont mentionnés dans Apocalypse 11? Dans Apocalypse 11, il est dit ceci, j'accorde... Alors, on me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple laisse le côté et ne mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de la prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Donc ici, il y a deux prophètes qui semblent être revêtus d'un pouvoir identique à celui d'Élie et de Moïse. Élie qui a pu fermer le ciel par sa parole et Moïse qui a pu changer de l'eau en sang. Alors on peut se dire, mais si deux prophètes de ce type-là interviennent, du genre d'Élie et de Moïse, est-ce qu'il ne faudrait pas leur accorder en quelque sorte le statut de prophète de première classe et considérer tout ce qu'ils disent et toutes leurs paroles comme étant paroles normatives et l'ajouter au canon? Alors, je dirais que la question est peut-être plus théorique que pratique, pour deux raisons. D'abord, il semble que leur ministère va s'exercer pendant la tribulation. Or, pour ceux qui croient dans l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, vous n'aurez pas à vous poser cette question parce que vous ne serez plus là. N'est-ce pas? Maintenant, autre chose, ce ministère dure 1260 jours, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 3 ans et demi. Et je pense que ce ministère sera surtout oral. Qu'ils seront reconnus largement à cause des signes, mais qu'on ne va pas ajouter au canon à ce moment-là. Mais ils auront un ministère oral qui sera de très très grande autorité. Voilà. Mais à part ces deux exceptions qui sont annoncées dans le Nouveau Testament, et donc qu'on peut attendre, autrement, il n'y a pas d'autres prophètes qui peuvent se présenter et qui pourraient rajouter quelque chose de fondamental à notre foi. Voilà, est-ce que quelqu'un aimerait rajouter, n'est-ce pas, compléter ce que j'ai dit, dire autre chose, poser une question sur ce thème, qui est un thème brûlant. Quand même. La clôture du canon, est-ce que quelqu'un, ou le ministère prophétique aujourd'hui, est-ce que quelqu'un aimerait faire une remarque ou poser une question dans ce domaine? Monsieur Rizdal.
Il y a ce ministère de prophètes de première et deuxième catégorie, ça me gêne un peu. Je sais pas, je vois tout le même, employé différemment par le Seigneur, mais je sais pas si vous pouvez une explication.
Alors c'est clair que la Bible ne parle pas de première et deuxième catégorie. C'est une appellation que je donne pour dire qu'ils sont de différentes natures. Alors, si on n'accepte pas cette différence, on est obligé de dire que le ministère de prophétie ne peut pas s'exercer aujourd'hui. Parce que c'est absolument fondamental. Ou alors, on ouvre le canon à tous ces prophètes qui prophétiserait aujourd'hui. Or, l'Église n'a jamais ouvert cette porte-là. Même ceux qui pensent qu'un ministère de prophétie existe aujourd'hui, par exemple dans les milieux pentecôtistes, disent le canon il est clos. Les seuls qui ont dit que le canon était ouvert, c'était les sectes. Mais parmi les chrétiens, toutes les églises ont dit le canon il est clos. Il n'y a plus rien de fondamental, de normatif qui peut être dit. Alors il faudrait dire à ce moment-là, et certains chrétiens le disent, qu'on appellera comme on veut, anticharismatique ou antiprophétique 20e siècle ou je ne sais pas comment, mais ces chrétiens-là diront, ben, le ministère prophétique ne peut pas exister, non seulement aujourd'hui, mais depuis la mort de l'apôtre Jean.
Regardez ce roi couvert de blessures, c'est ce que nous voulons aussi faire avec notre cœur et notre...